commencerai par Madame Smriti Nahula. Merci, Monsieur le Président. Merci aux délégations pour toutes leurs observations. Tout d'abord, j'aimerais réagir aux recommandations de l'Union européenne tendant à supprimer individuellement et collectivement. Et nous pensons qu'il faut vraiment conserver ces termes dans le texte. Nous pourrons discuter plus longuement des questions relative aux droits collectifs et individuels demain, mais je crois qu'il s'agit de droits qui ne concernent pas seulement les peuples autochtones, mais également d'autres communautés, comme cela a été souligné par la délégation de la Bolivie. Il s'agit en fait d'un reflet de données factuelles qui montrent comment est-ce que les produits alimentaires sont produits. Je crois que l'on pourrait même parler de ces droits individuels et collectifs bien avant dans le texte. Nous pourrions dire que l'on parle du droit individuel et collectif qui s'applique à l'ensemble de l'article et pas seulement à un paragraphe. D'autre part, pour ce qui est de la proposition concernant la phrase où l'on dit que les États doivent s'efforcer à faire en sorte que les personnes aient droit à une alimentation suffisante, je crois que c'est évidemment quelque chose qui figure dans le commentaire général numéro 12 et que nous pouvons reprendre. Maintenant, pour ce qui est de la souveraineté alimentaire, pour ma part, je préconise vivement que nous conservions le concept de souveraineté alimentaire. Toutes sortes d'arguments ont déjà été brandis pour expliquer pourquoi il faut conserver cette expression. Je crois qu'il faut bien comprendre que cette souveraineté alimentaire est déjà reprise dans différents instruments internationaux et je ne pense pas que cela vienne en aucune façon saper la souveraineté des États. D'autre part, comme cela a déjà été dit, il serait factuellement inexact de parler de sécurité alimentaire dans le paragraphe 4 de cet article, alors que la plupart des États ont préconisé la souveraineté alimentaire. Enfin, pour ce qui est de la sécurité alimentaire, il est important de bien comprendre que la sécurité alimentaire est un résultat et non pas un processus. Ce que nous cherchons, c'est à parvenir à la sécurité alimentaire, mais nous nous interrogeons sur la manière d'y parvenir. Et c'est une question qui est posée dans pas mal de textes relatifs aux droits de l'homme. Je crois par conséquent que le droit à l'alimentation suffisante peut être considéré comme un processus qui permettra d'assurer la souveraineté alimentaire. Et je crois que c'est quelque chose qui est dit clairement par différents rapporteurs sur le droit à l'alimentation. Ils ont souligné que la souveraineté alimentaire dans bien des régions et dans bien des conditions était vraiment la condition préalable pour avoir un droit à une alimentation suffisante. Plus récemment, dans la recommandation générale, pardon, numéro 4, une observation similaire a été faite. D'autre part, je pense qu'il est également bien important de se rappeler quelles sont les obligations des États lorsqu'on parle du droit à l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Il est important que les États respectent le droit à l'alimentation suffisante et s'abstiennent de prendre des mesures qui empêcheraient les personnes d'avoir accès aux ressources dont elles ont besoin pour produire des denrées alimentaires. Les États doivent protéger l'accès aux ressources naturelles de la part de différentes entités et les États doivent chercher à renforcer l'accès aux moyens et aux ressources naturelles. Les communautés rurales ainsi que les paysans sont au cœur même de cette politique de souveraineté alimentaire. Je pense qu'il faut voir comment est-ce que les paysans et les personnes vivant dans les zones rurales ont accès aux ressources naturelles. Enfin, et pour terminer, je rappellerai certains faits dont nous avons débattu hier. Les petits exploitants nourrissent 70% de la population dans le monde en utilisant moins de 25% des terres. Donc, il ne faut pas oublier que les exploitations traditionnelles sont beaucoup plus durables et beaucoup plus résistantes au changement climatique parce qu'elles préservent la biodiversité. Par contre, l'agriculture industrielle, qui ne produit que 30% de la production alimentaire, utilise des moyens qui sont vraiment dommageables pour l'environnement. Donc, je crois que pour parvenir à la souveraineté alimentaire, nous devons également nous interroger sur les systèmes que nous utilisons et sur les moyens de production. Donc, nous devons également répondre aux soucis de pérennité et réfléchir non seulement aux paysans et aux communautés rurales, mais également aux autres groupes de population. Merci.